voilà, de vous présenter.
Oui, bonjour, je suis Jean-Marie Marco, je suis l'adjoint au maire de Cabreton, chargé de l'environnement.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la problématique qu'il y a ici, très particulière?
Alors, on a une problématique générale, mais qui est un peu particulière à cause de la configuration du site de Cabreton. La problématique générale, c'est celle du recul du trait de côte par l'érosion littorale. La particularité du site de Cabreton, c'est la présence du gouffre, qui a un effet apaisant sur la houle, qui a aussi un effet induit sur les courants littoraux. C'est la présence d'un port et d'une ville, ce qui veut dire que l'urbanisation est proche de la côte, alors que sur le nom du littoral, les zones, les villages sont assez éloignés. Ça veut dire aussi que notre dune, qui recule avec le vent, n'a pas trop de place pour reculer puisque l'urbanisation est très proche. Donc nos moyens de gestion de traits de côte sont assez différents de ce qu'ils peuvent être là où la dune a encore un peu de place pour être en quelque sorte une dune qui recule, une digue qui recule et donc une protection mobile. Nous, on ne peut pas avoir une protection mobile puisque très rapidement derrière la dune, il y a de l'urbanisation.
Alors qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce qu'il y a déjà un programme, enfin quelque chose qui a été justement par rapport à la fois à cette problématique, au plan climat, etc.?
Alors il y a déjà des choses qui sont ancrées dans une habitude ou en tout cas dans une expérience de 7 à 8 ans, c'est le bypass qui capte les sédiments retenus par la digue nord, donc qui sont un des effets de la dérive littorale, et qui ramène ces sédiments sur les plages du sud. Ce transit étant interrompu par la digue nord, et même quand il se passait, il était aussi interrompu par le socle de l'estacade. Et quand le courant emportait du sable du nord vers le sud, une grande partie de ce sable, à marée montante, rentrait dans le port et rentrait dans le lac de Segor. Donc le désensablement du lac est aussi un des éléments liés à cette gestion sédimentaire. Donc beaucoup croient que c'est la digue nord qui bloque à elle seule les sables qui auraient été sur les plages, mais en réalité les sables qui seraient passés si la digue nord n'était pas là, auraient quand même été pris par les courants de marée montante ou de marée descendante, et seraient partis soit vers le port, soit vers le large. Donc sur Cabreton, on a deux types de configurations. La configuration très urbaine, où nous nous trouvons maintenant, qui abrite des enjeux économiques assez considérables. Le port, de l'habitat, des restaurants, des activités de service. Et cette activité-là, elle est protégée par un mur de défense, qui lui-même est protégé par le transfert du sable. Le transfert du sable, beaucoup pensent qu'on le fait pour que les estivants aient de la plage. C'est un service que l'on doit rendre puisque le tourisme est important pour nous. Mais le transfert du sable a comme première utilité d'avoir une plage haute qui protège donc le mur, lequel mur serait cassé à force de coups de houle et donc l'urbanisation derrière serait menacée. Donc le transfert par le bypass a une finalité économique forte qui est de protéger les murs.
Est-ce que ça a un coût aussi
Oui, alors ça a un coût, à peu près 200 000 euros par an, mais on est en train de faire une étude coût-avantage qui consiste à dire quelle est la valeur économique produite chaque année par tout ce que l'on protège. Et sur cette valeur économique, quand on sait que les prélèvements obligatoires sont à peu près de 50%, on dit pour 200 000 euros, quels sont les flux financiers publics que l'on protège. Et là, les chiffres sont considérables, puisque pour 200 000 euros de transfert de sable, on protège plus de 5 millions d'euros par an de production de bénéfices publics, que ce soit des cotisations, des impôts, des choses comme ça. Donc voilà, le bilan coût-avantage, il est très évident. Ce qui n'est pas du tout la même chose dès qu'on se déplace vers le sud, où les enjeux protégés résident beaucoup plus de l'urbanisation d'habitat, de résidences secondaires. Et là, le coût de la protection comparé aux avantages publics ne donne pas du tout le même résultat.
Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce que celle-là, elle est quand même remise, je dirais, un petit peu chaque année en question, puisque ça vous demande quand même cet investissement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions, je dirais, plus pérennes et qui seraient plus écologiques, en quelque sorte?
Alors, moi j'estime que le transfert du sable est une solution écologique, puisque ça revient à prendre le sédiment et le remettre dans le mouvement que l'activité humaine, que la configuration portuaire a modifié. Donc c'est une remise en ordre d'un mouvement interrompu par l'activité humaine, donc je ne le trouve pas du tout agressif ni perturbant par rapport au fonctionnement naturel. Par ailleurs, il faut bien se rendre compte que chaque hiver, le niveau de la plage se rabaisse, et s'il se rabaissait sans qu'on réengraisse, eh bien ce sont les fondations du mur qui seraient affouillées par-dessous. Et donc c'est tout ce que l'on voit autour de nous, toute cette urbanisation, tous ces équipements qui seraient menacés. Donc là pour nous, nous possédons la technique, nous avons un coût de fonctionnement, certes c'est tous les ans, vous avez raison, mais les rapports économiques c'est aussi tous les ans, et ils sont très au-dessus du coût, donc ça vaut la peine sur un plan économique. Et la matière première, c'est-à-dire le sable, nous l'avons puisque les bureaux d'études qui travaillent avec nous nous préconisent même d'augmenter encore le volume transféré. Aujourd'hui, on prend 100 000 mètres cubes de sable.
Vous le prenez où, ce sable ?
On le prend à Notre-Dame. Donc, quand vous allez aller vers l'estacade, vous regardez sur l'autre rive. Et vous allez voir une plage qui est très haute, qui est très, très engraissée, qui est tenue par la digue nord. Et c'est cette plage-là qui est engraissée par la dérive littorale. Nous prenons chaque année, ça doit être en cours d'ailleurs maintenant, 100 000 mètres cubes que l'on amène avec des tuyaux, avec des pompes, du côté sud.
Il y a eu des études d'impact par rapport à ça ?
Je pense que quand le dossier a été autorisé il y a 10 ans, il y a eu des études qui ont été faites dans ce sens-là. Et du reste, s'il faut les rénover, ça va être le moment puisqu'on va faire un dossier de renouvellement de l'autorisation pour une dizaine d'années. Et dans ce dossier de renouvellement de l'autorisation de transfert, on va demander aussi l'autorisation de transférer beaucoup plus. Car actuellement, on transfère donc 100 000 mètres cubes et chaque année, la dérive en amène plus que 100 000. Et le supplément passe par-dessus la digue et rentre à nouveau dans le lac. Donc plutôt que d'aller chercher du sable une fois qu'il est rentré dans le lac, ce qui coûte cher, ce qui pose des enjeux environnementaux beaucoup plus importants, il vaut peut-être mieux le récupérer là avant qu'il entre dans le lac.
Quel est le volume de sable qui arrive ? Si c'est plus de 100 000 ?
Alors, le volume de sable qui va se déposer, on ne sait pas exactement ce qu'il est. Il y a quelques années, un peu plus d'une dizaine d'années, un bureau d'études estimait la dérive littorale à peu près 100 000 mètres cubes par an. Et le bureau d'études avec lequel on travaille maintenant, avec sans doute des méthodes de suivi un peu plus fines, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, estime que le volume de la dérive littorale est au-dessus de 200, entre 200 et 400 000 mètres cubes par an. Je crois qu'on est dans une connaissance sur laquelle il faut être assez modeste, hein, j'imagine que ce n'est pas facile de mesurer ces choses-là. Ce que l'on peut constater, c'est que nous, chaque année où on a enlevé 100 000 mètres cubes de sable, il en est revenu au moins autant, puisqu'il s'en déverse dans le canal. Et donc, on a besoin de plus de sable au sud, on a besoin d'empêcher le sable de rentrer dans le lac, donc on va en prendre plus. C'est aussi simple que ça.
Et donc là, les perspectives d'avenir, c'est de ce que vous étiez en train de un petit peu de nous expliquer, c'est-à-dire de continuer ce programme-là qui a été lancé. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont imaginées en cas de risque, cette fois-ci à cause du réchauffement climatique notamment ?
Voilà. Alors, il y a actuellement dans l'étude de stratégie littorale deux volets, le volet recul du trait de côte et le volet submersion. Ici, nous sommes au bord du port et quand il y a une houle assez forte, ce soir il va y avoir une grosse marée, mais apparemment la houle n'est pas très élevée, l'eau déjà de temps en temps déborde du canal et vient sur la voirie et sur les parkings. On a donc modélisé, les services de l'État ont modélisé en fonction d'événements tempétueux plus importants, de coefficients de marée, ça c'est assez prévisible, hein, on connaît les coefficients de marée jusqu'à 2050 si on veut. Donc, mais par contre, en tenant compte de la hausse du niveau des océans, les services de l'État ont modélisé ce que pourraient être les surverses par débordement du quai. Et donc, quelles sont les zones urbanisées qui pourraient être submergées, sachant que là, il faut aussi prendre conscience que cette submersion, elle est pendant le pic de la marée haute, puis elle disparaît à la marée basse. On est donc sur une forme d'aléa qui est sans doute beaucoup moins invalidant qu'une crue torrentielle, par exemple. Donc c'est une inondation pour laquelle la présence de l'eau est peu brutale, prévisible, puisqu'on sait le calendrier des marées, temporaire, puisqu'après les marées hautes, il y aura des marées basses.
Donc c'est un travail de prévention à ce moment-là?
Alors là, dès qu'on aura déterminé avec assez de précision les zones d'aléa et le niveau de l'aléa, la prévention, c'est dans un premier temps de vérifier si ces zones sont aujourd'hui urbanisables ou urbanisées, si elles ne sont pas urbanisées, faire en sorte qu'elles ne le deviennent pas, et leur donner une nouvelle vocation. Donc on a actuellement répondu à l'appel à projet lancé par Madame le ministre de l'Environnement, et l'école d'architecture de Bordeaux et l'école d'architecture du paysage fait travailler des jeunes sur des idées. C'est quelle pourrait être la vocation des espaces qui sont aujourd'hui susceptibles d'être submergés, même si c'est une fois de plus de façon prévisible et temporaire. Et c'est peut-être une opportunité de renouvellement urbain.
Donc, vous travaillez sur l'urbanisation, c'est ça, cet appel à projet?
Cet appel à projet...
De la côte, il me semble.
Cet appel à projet, moi je ne sais pas comment les autres y ont répondu. Je peux vous dire la réponse qui a apportée la commune de Cabreton.
Et vous avez été retenu? Vous avez répondu pour
le moment. On a répondu. Hein.
D'accord.
On a anticipé avec l'école d'architecture. Et je pense que la candidature formelle, ça doit être maintenant, parce que l'appel à projet vient tout juste, je crois, d'être publié. Enfin, nous, on a un petit peu devancé l'appel, puisque j'étais justement à l'école d'architecture la semaine dernière pour voir où les jeunes gens en étaient, leur donner des réponses à leurs questions sur le...
Vous avez trouvé des idées un peu innovantes, justement?
Pour l'instant, pas. Ils en sont encore au stade du diagnostic. Hein, mais...
Donc, c'est une commande de votre part pour répondre à cet appel à projet?
Non, c'est plutôt l'inverse. C'est le ministère de l'Environnement qui avait l'idée de cet appel à projet. Par un réseau de relations qui passe via le GIP, une personne du ministère de l'Environnement a pris contact avec moi pour me dire, on va lancer ça, est-ce que ça vous intéresse? J'aurais dit oui, ça nous intéresse. Enfin, donc, c'est plutôt informel, quoi, la façon dont on est arrivé. L'essentiel, c'est qu'on est dedans et que dans cet appel à projet, ce n'est pas forcément des idées que l'on mettra en œuvre, mais ça permettra d'avoir une large panoplie d'idées.
D'accord.
Alors, je n'ai pas été complet, donc je vais beaucoup insister sur la protection de la zone urbaine.
Oui.
Au sud, on a des zones moins urbaines, voire même pas urbaines du tout. Et dans ces zones-là, ce que l'on peut faire, c'est plutôt d'accompagner le mouvement que de l'empêcher.
D'accord.
Et c'est la raison, c'est ce qu'on appelle un peu entre le chêne et le roseau. Là, on sera plutôt le roseau. Ici, on sera le chêne et là-bas, on sera plutôt le roseau. Et donc, là-bas, on est plutôt au sud sur des techniques qui sont de stabilisation de la dune, de façon à ce que le stock sédimentaire ne s'appauvrisse pas trop.
Alors, comment? Avec des plantations, des oyas?
D'abord, du reprofilage, d'abord, parce que la dune était assez dégradée dans sa géométrie. Il y avait ce qu'on appelle des sifflevents, c'est-à-dire des vallées formées par le vent et qui sont la conséquence du piétinement. Donc on a d'abord fait des terrassements, puis ensuite on a posé des branchages pour protéger ce sable qu'on a mis à nu. On avait bien sûr mis de côté la terre superficielle qui contient toujours quelques racines, quelques graines, quelques rhizomes. Et d'ailleurs c'est très bien puisque une fois le terrassement fait, on remet cette terre en place. Et là, au printemps, on voit déjà un peu de
verre. Ça se végétalise naturellement alors.
Oui, mais on a aussi végétalisé de main d'homme et donc on a lancé un chantier citoyen de la dune qui consiste à dire aux gens d'ici, ben, la dune, vous y tenez, vous vous en servez, vous en profitez, mais elle a besoin de vous. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour la dune? Et donc, on a presque une centaine de personnes, des adultes, 90 à ce jour, qui sont inscrits et qui sont dans un calendrier de planning de travaux. Enfin, ils ont maintenant terminé ce travail-là, puisque le chantier a été ouvert au mois de janvier. Et ils sont dans un calendrier de travaux qui consiste à dire, ben, moi je me sens capable de poser des branches hein, pour protéger le sable qui est à nu, je me sens capable de planter de l'oyat, de l'agropiron, même poser des clôtures, je peux le faire. Et donc chacun a dit un peu quelle était sa panoplie ou son offre de compétences. Et après, on a mis ça dans le planning des entreprises pour que les entreprises, bien sûr, fassent du travail avec leur propre personnel, mais sachent aussi s'appuyer et encadrer ce petit bataillon de bénévoles qui a très très bien bossé. Pas tout à fait, mais c'est quelquefois des résidents secondaires. C'est peut-être des gens qui sont venus souvent en vacances. En fait, ce sont tous des gens qui ont une affinité avec Cabreton.
Hein, voilà. Et est-ce que le Conservatoire du Littoral aussi vous aide à ce niveau-là ou pas du tout?
Alors sur la zone que l'on traite, le Conservatoire du Littoral est peu présent foncièrement parlant. Ils ont juste une parcelle pour laquelle, il faut savoir que c'est un territoire qui est très parcellisé avec beaucoup, beaucoup de parcelles privées. Contrairement
à la zone plus moins urbaine du sud.
Oui, voilà, la zone au sud du CERS, hein, du Centre européen de soins des sportifs. Et donc, le conservateur du littoral a une parcelle pour laquelle il nous a délégué en quelque sorte la maîtrise d'ouvrage. Et sa parcelle, on va la traiter en même temps que tout le reste. Et donc, ils vont nous apporter une contribution financière.
Et puis technique peut-être aussi
Non, c'est l'ONF plutôt qui est notre conseiller technique, qui a vraiment une très très grande habitude dans ces domaines-là, puisque l'ONF gère des kilomètres de dunes en Aquitaine au moins, peut-être même en France, et donc ils ont une grande expérience dans ces domaines.
Mais là, c'est bâti, ces zones-là sont bâties quand même.
Très peu, elles sont bâties en retrait, mais pas sur la dune.
Derrière la dune, en fait.
Oui, un peu derrière la dune.
Alors du coup, ces habitations-là sont quand même menacées par le mouvement de la dune.
Absolument, oui, ces habitations sont déjà très affectées par le mouvement du sable, puisque les résidents, quand ils viennent passer leurs vacances, passent un peu de temps à sortir le sable. Et donc, ils ont été eux-mêmes très intéressés. On a eu des contacts fructueux avec les copropriétés. Ils sont très intéressés par nos travaux de stabilisation parce qu'ils se disent, si la végétation reprend, si les cheminements sont respectés, le sable soufflera moins et on aura moins de problèmes d'ensablement de nos résidences.
Est-ce qu'elles sont menacées à l'heure actuelle
Elles ne sont pas menacées aujourd'hui, mais si on se place sur un très long terme, avec le recul du trait de côte, oui, il y a réellement un risque pour ces habitations-là.
Il y a donc des panneaux de sensibilisation.
Ils sont en train d'être faits. On est en train de travailler sur le contenu.
Pour protection d'un.
On va même créer un sentier de la dune, un itinéraire, puisque la dune à Cabreton, c'est pas parce que je suis élu de Cabreton, mais même s'il n'y avait que ce motif, ça serait suffisant. Elle est assez spéciale, la dune de Cabreton.
Qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Elle a de très spécial d'avoir été créée bien avant la période impériale où ont été créées toutes les autres dunes. Elle a été créée au Moyen-Âge par les Templiers. Et elle a été créée, et elle n'a pas été fixée par les moyens qu'on a vus ailleurs, elle a été fixée par la plantation de vignes. Et s'il y a du vin des dunes à Cabreton, c'est parce que ça remonte. Oui, c'est une très belle histoire, mais là je vais vous mettre en retard si vous voulez. C'est une très belle histoire, mais Cabreton était déjà un port très prospère parce qu'on avait le gouffre qui apaisait les vagues et parce qu'on avait l'Adour qui permettait de rentrer dans la terre. Et à cette époque-là, le mouvement du sable menaçait la prospérité de la ville puisqu'il menaçait d'ensabler le port. Et donc, la conscience qu'il fallait se protéger du mouvement du sable, c'était pas pour protéger des résidences de vacances, ça n'existait pas, c'était pour protéger l'activité économique. Et donc, les Templiers avaient recherché une méthode de fixation du sable qui puisse un peu rapporter, puisque c'est quand même un travail extrêmement répétitif, et qui puisse rapporter. Et ils ont vu qu'un certain nombre de cépages se comportent comme des lianes et fixent la dune tout en rapportant un petit peu. Et pour l'anecdote, si ça vous intéresse, on a retrouvé des bordereaux de transport très anciens du temps des fermiers généraux du vin de Cabreton, où on a la côte du vin de Cabreton et la côte des vins de Bordeaux, et j'espère qu'il n'y a pas de bordelais parmi vous, mais le vin de Cabreton se vendait plus cher que le vin de Bordeaux. Et il était consommé à la table du roi d'Angleterre, puisque ça c'est aussi l'histoire de l'Angleterre et de l'Aquitaine.
Bien, merci.